Bonjour Pierre Kasounoguès, nous parlons de la bienveillance des machines, comment le numérique nous transforme à notre insu, qui est paru en avril 2022 aux éditions du Seuil dans cette collection La couleur des idées. C'est notre cinquième entretien ensemble. Le premier, c'était en 2007 pour Le démon de Gödel, Logique et folie. Le deuxième, c'est en 2010 pour Mon zombie et moi, La philosophie comme fiction. Le troisième, c'est en 2012 pour Lire le cerveau, neuroscience-fiction. Et le quatrième, c'est en 2014 pour ce livre Les rêves cybernétiques de Robert Wiener. Tu es philosophe et la question de la science-fiction et de la technologie travaille particulièrement tes travaux et tes concepts. Pour ce nouveau livre, La bienveillance des machines, il y aurait deux préalables, il y aurait deux sources dont la première serait deux films que tu as co-réalisés. Le premier serait Bienvenue à Air Haven en 2019 et le deuxième Virusland en 2022. Peux-tu nous parler déjà de ces deux films comme prémisse à ce livre La bienveillance des machines ?
Oui, alors je ne dirais pas exactement que ce sont des prémices. Et j'ai co-réalisé ces films avec le premier avec Stéphane Desgoutin et Gwenola Wagon, Bienvenue à Air Haven, et le second Virusland 2020 avec Gwenola Wagon. Je ne dirais pas que ce sont des prémices. Hein. C'est plutôt que j'ai travaillé sur Air Haven, Bienvenue à Air Haven, en même temps que j'écrivais La bienveillance des machines. Alors. Oui, sur ce film, Bienvenue à Air Haven et La bienveillance des machines, il y a deux éléments, disons, qui relient. Hein. Le premier, c'est le roman de Samuel Butler, Air Haven. Donc, Samuel Butler est un écrivain, philosophe, disons, britannique. Air Haven est un roman publié en 1871, si mon souvenir est bon. Et dans ce roman, c'est une sorte d'utopie, il y a un chapitre particulier qui s'appelle « Le livre des machines », dans lequel Butler explique qu'à Air Haven, les Erevoniens ont détruit toutes leurs machines. Et il finit donc dans ce chapitre par comprendre pourquoi. C'est parce que les Erevoniens se sont persuadés que les machines avaient une sorte d'autonomie. Et que les machines se développaient, en fait. Les machines, donc, Butler reconnaît que les machines n'ont ni la conscience humaine, ni l'intelligence, ni l'instinct animal, ni même en aucune façon la vie. Mais pour Butler, les machines ont une tendance à l'extension. Et les Erevoniens ont pris peur de cette tendance à l'extension, de ces machines qui commencer à envahir leur vie et à les transformer eux-mêmes, et ils ont décidé de toutes les détruire. Et donc, dans Bienvenue à Air Haven, nous imaginons une société dans laquelle les machines auraient cette autonomie, et à la différence des Erevoniens de Butler, les humains accepteraient cette autonomie et accepteraient de vivre en parasite des machines, en fait, d'être un peu comme dans une espèce de symbiose avec les machines, dans lesquelles les machines ont certes besoin des humains, mais les machines utilisent un peu, disons, les humains comme nous utilisons dans notre ontologie commune les bactéries que nous avons dans l'estomac pour continuer à vivre. Les humains seraient des sortes de parasites qui facilite l'extension des machines. Et donc, dans ce film, nous imaginons cette société en grande partie automatisée, dans laquelle les humains ont confié leur destin à ce pouvoir d'extension des machines. Et c'est une question donc, qui m'intéressait aussi dans La bienveillance des machines, à savoir cette idée que les machines ont une tendance à l'extension et que les machines contemporaines seraient bienveillantes vis-à-vis des humains parce qu'elles les utilisent pour leur propre développement, pour leur propre essor. Et d'une certaine façon, ce qui m'intéresse, c'est de ne pas... Je ne veux pas défendre l'idée d'une autonomie que les humains devraient reconquérir. D'une certaine façon, nous, sans doute depuis très longtemps, vivons dans une sorte de symbiose avec des objets technologiques. Mais ce qui m'intéresse, voilà. Mais en même temps, aujourd'hui, certainement, si nous vivons, si nous acceptons de nous confier à ces machines, eh bien, nous les utilisons de plus en plus et nous allons sans doute dans le mur du réchauffement climatique. Ce que je veux dire, c'est que si mon téléphone, finalement, est absolument nécessaire à ma vie, parce qu'il me rend toute une série de services, et mon téléphone ne me dira jamais utilise-moi moins, éteins-moi, il pourra peut-être faire semblant de me le dire, mais il me dira, au total, il est quand même programmé pour me dire utilise-moi de plus en plus et quand t'en as marre de moi, achète un modèle plus performant. Et que cette tendance à l'extension des machines, cette tendance qu'ont les machines à empiéter de plus en plus sur nos vies, elle nous conduit dans le mur du réchauffement climatique. Donc, un premier rapport entre ce livre et La bienveillance des machines et le film Bienvenue à Erevan, c'est cette idée d'interroger cette hypothèse de Butler, qui est une hypothèse un peu de fiction, que les machines auraient une tendance à l'extension, sans avoir, je le répète, ni la conscience, ni l'intelligence, ni l'instinct, ni même la vie, simplement une tendance à s'étendre. Et puis le deuxième rapport, c'est que, comme tu le sais, comme tu l'as dit, dans mes livres, qui sont des livres de philosophie, des livres théoriques, je défends l'idée qu'il faut faire intervenir dans cette théorie, dans la philosophie, des fictions. Et que finalement, la fiction est le mode d'intuition du philosophe, ce sans quoi ses concepts tournent à vide. Et donc, dans ces films, en travaillant avec ses collègues artistes, j'ai aussi essayé d'élargir finalement les fictions que, en tant que philosophe, je pouvais utiliser. Et c'était l'idée de passer de fictions écrites à des fictions filmiques. Et finalement, je défends que la philosophie doit utiliser la fiction. Encore une fois, que la fiction est un mode d'intuition pour le philosophe. Mais pourquoi en rester à la fiction écrite ? Finalement, il y a tout un secteur de l'art numérique qui propose dans des installations dont le texte ne fait qu'une partie des fictions spéculatives. Alors, est-ce que ça peut rentrer dans la philosophie ? Alors même, est-ce qu'on peut faire de la philosophie avec ça ? Je veux dire, pas seulement de la philosophie en interprétant de tels dispositifs, mais de la philosophie dans ces dispositifs, avec ces dispositifs. Évidemment, c'est moins facile que de le faire avec du texte, mais est-ce que c'est possible ? Voilà, il y avait cette idée d'élargir ces fictions que j'utilise.
Alors pour continuer ce que tu viens de dire, tu exprimes aussi dans ton introduction que, en soubassement, au préalable, tu avais écrit ce recueil de nouvelles, Technofiction, c'était en 2019, parce que je n'ai pas précisé non plus, et en fait, je ne t'ai jamais interviewé sur tes fictions, puisque tu écris également des textes de fiction, et qu'il y a assez peu de philosophes qui s'adonnent aussi à l'écriture fictionnelle. Je pense à Tristan Garcia. À ma connaissance, vous êtes les deux seuls à véritablement explorer le régime de la fiction, de l'écriture littéraire, et à la fois d'être authentiquement philosophe, puisque tous les deux vous enseignez la philosophie. Et donc, dans ton introduction, s'agissant de ce recueil de nouvelles, Technofiction, qui était sorti en 2019, tu écrivais: il s'agissait alors, par la fiction, de mettre en scène des formes de vie, des possibles ouverts par la technologie contemporaine, pour pouvoir ensuite en analyser les caractéristiques, en classifier les symptômes. C'est ce que tu viens d'exprimer. Au préalable encore, dans ton introduction, tu nous parles d'un point de méthodologie, et celui-ci me paraît aussi important, c'est que le philosophe qui veut parler de la technologie est à l'étroit. Tu écris qu'il est coincé entre deux experts, le scientifique et le sociologue.
Oui, donc sur les philosophes qui écrivent de la fiction, je pense que c'est beaucoup plus répandu. Je pense à Bruce Bégou ou Guillaume Leblanc. Je pense que c'est assez répandu, en fait. Et que ça tient à ce que, véritablement, la philosophie, qui n'est pas de l'histoire de la philosophie, ne peut que passer par la fiction. Que c'est pas une méthode personnelle, c'est vraiment quelque chose d'universel dans la philosophie, et que tout ce qu'on peut faire, c'est le refouler. Et je pense que, par exemple, dans les textes classiques de l'histoire de la philosophie,
on trouve toujours des fictions plus ou moins élaborées, plus ou moins apparentes, mais que ne serait-ce que la description par Husserl de la page blanche dans les recherches logiques est une fiction. C'est-à-dire, on se moque de savoir si Husserl écrit sur du papier blanc ou jaune, mais la philosophie doit, même dans sa version la plus accrochée au sensible, la philosophie doit commencer, le philosophe doit commencer par décrire ce dont il va parler, et que tout le monde, et qu'on ne lit pas cette description comme on lit un article de journal ou le bulletin météorologique. Je lis sur le journal ou sur mon téléphone qu'il va pleuvoir. Je regarde par la fenêtre pour savoir si il va effectivement pleuvoir. C'est pas comme ça qu'on lit la philosophie. On se moque de savoir si la fiction du philosophe, si le texte du philosophe est vrai en ce sens. Ce qu'on y cherche, c'est autre chose. C'est finalement un aperçu sur l'expérience qui relève de la fiction. Donc je pense que la philosophie passe forcément par la fiction et qu'on peut simplement vouloir le cacher ou faire de l'histoire de la philosophie et alors ne faire que se référer aux fictions qu'ont écrit les philosophes de l'histoire de la philosophie. On dira alors regardez, rappelez-vous la page blanche de Husserl, etc. Bon, mais pour revenir à cette difficulté à être philosophe spécifiquement des technologies, lorsque l'on est effectivement entre un expert informaticien qui a construit le robot et qui sait de quoi il parle et un sociologue, disons, dans une certaine version, alors je reconnais un peu caricaturale et étroite de la sociologie, et il y a des sociologues, je veux dire, qui sont professeurs de sociologie et qui relèveraient plutôt de la philosophie telle que je vais la définir, mais dans cette version caricaturale de la sociologie, le sociologue est également un expert qui, lui, n'est pas spécialiste de l'objet technologique lui-même, mais des relations que nous entretenons à cet objet technologique. Donc, l'informaticien a construit un robot compagnon, un AO, le sociologue a été dans les familles japonaises pour étudier les réactions des membres de la famille selon leurs âges au robot. Et il revient avec toute une série de chiffres qui s'inscrivent dans certains protocoles. Et alors, le philosophe, de quoi va-t-il parler ? Clairement, il connaît pas en tant que philosophe, il ne peut pas prétendre connaître l'objet technologique aussi bien que l'informaticien. Et il est également coincé du côté de la sociologie, puisque lui n'a pas ses méthodes, disons au moins normées, pour chiffrer des choses concernant nos relations à l'objet technologique. Alors, qu'est-ce qu'il peut encore dire ? Et donc, ma thèse, c'est que la philosophie a son domaine propre dans le possible. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'un robot, ou d'une machine, ou d'un téléphone, ou de la technologie en général, on entend pas seulement les robots, les téléphones, la technologie qui existe actuellement, mais tout un halo de possibilités qui ont été développées par la fiction ou que la fiction est encore en train de développer. On prend l'objet avec tout un halo de possibles. Et c'est ce halo de possibles qui détermine ce qu'est le robot pour nous. Et c'est ce halo de possible que le philosophe va étudier. Donc, je dis possible hein, en un sens particulier, c'est-à-dire pour le philosophe, le possible, ce n'est pas le possible qui peut arriver, ce qui peut arriver dans la vie, parce que d'une certaine façon, le philosophe, en tant qu'il n'est pas scientifique, ne sait pas ce qui peut arriver dans la vie. C'est encore un travail de scientifique de prédire l'avenir, de prédire ce qui peut arriver. C'est pas le travail du philosophe. Le philosophe s'attache à un possible plus large qui est celui de la fiction. C'est-à-dire, que peut-on imaginer, arriver? Que peut-on raconter arriver dans une fiction qui tienne, dans une histoire qui tienne? Et donc, pour moi, la philosophie a un domaine particulier, a une place, a une place distincte de celle du sociologue, hein, encore une fois, dans cette version un peu caricaturale que je viens d'en donner, d'un côté, et de l'informaticien de l'autre. Cette place, cette position, c'est celle de s'attacher au possible, de s'attacher à la fiction pour élucider les possibilités contenues dans nos machines et qui déterminent ce que sont ces machines pour nous. Encore une fois, quand je parle d'un robot, en prononçant le mot robot, je ne me réfère pas seulement aux robots qui existent avec ce qu'ils font réellement maintenant, j'envisage toute une série de possibilités. Et c'est aussi vrai du scientifique. Hein. Lorsque le scientifique parle d'un robot, il n'y a qu'à regarder les publicités des fabricants, hein, de robots compagnons. Lorsque le scientifique parle de robot, lui-même prend le terme avec une multitude de possibilités, tout un horizon qui dépasse ce que les robots peuvent faire aujourd'hui. Donc, voilà, il s'agit d'une analyse par l'imaginaire, par la fiction, de ce que sont nos machines actuelles.
Je voudrais vraiment insister sur ce point méthodologique, car tu y insistes dans ton introduction. Et puis, j'ai l'impression que c'est ce tient-là, ton apport à la méthode philosophique qui parcourt tous tes livres. Tu as cette phrase importante qui pourrait résumer ce que tu viens de nous expliquer. Le philosophe ne fonde pas son discours sur des informations, mais sur des fictions. Là, j'ai l'impression que ça, c'est ton apport à la philosophie, la manière dont tu vas le distinguer de la sociologie et de la science. J'aimerais, pour terminer sur cette question-là et pour que tu puisses encore y insister, même si tu en as déjà beaucoup parlé à l'instant, que tu commentes les deux dernières phrases de ton introduction. Et donc, on va continuer encore à insister sur ce que tu viens d'énoncer. Je te cite. « J'essayerai de montrer qu'un certain nombre de fictions mettent en scène un concept de pensée tel que celui-ci rend en effet possible des machines d'introspection nous dévoilant notre propre état d'esprit. Un écran sur lequel nous pourrions voir nos pensées ou nos états d'âme mieux que dans notre tête. Et cette possibilité même, et j'insiste, hein, et cette possibilité même modifie le statut de la pensée. Cela resterait vrai alors même que nous n'utiliserions pas de telles applications. » Ça c'est quand même très fort comme énoncé. « Cela resterait vrai alors même que nous n'utiliserions pas de telles applications. »
Oui, alors c'est sont les deux dernières phrases de l'introduction, comme tu l'as dit, qui annoncent la suite du livre, et donc c'est vraiment une sorte de résumé de la suite du livre, et va donc m'être difficile de les expliquer en peu de temps. Mais je voudrais d'abord revenir, sur cette idée que le discours du philosophe n'est pas fondé sur des informations, mais des fictions. Et c'est lié vraiment à des expériences de table ronde, ou à propos en particulier de mon livre « Lire le cerveau », où je suis à côté d'un neuroscientifique et je parle des travaux d'un autre neuroscientifique qui a tous les titres universitaires qu'on peut imaginer. Et celui qui est à côté de moi me dit « c'est pas vrai ». Et moi, en tant que philosophe, je fais quoi ? Je fais quoi ? Je peux pas prouver ce que je viens de rapporter. Je le connais de seconde main. Je ne fais que citer les travaux de quelqu'un d'autre. Je suis totalement démuni. Et je pense qu'en fait, je suis démuni dans cette situation parce que je ne suis pas dans ma position de philosophe. Et que ce que je dois faire dans une position de philosophe, c'est pas appuyer une analyse de la pensée, disons, sur des travaux de certains neuroscientifiques, mais l'appuyer sur des fictions et à propos desquelles on ne pourra pas me dire « c'est pas vrai ». Ce que je montrerai alors, c'est que l'idée de pensée que nous avons, elle autorise de telles fictions et que donc elle a telle et telle caractéristique parce qu'elle autorise de telles fictions. Ce qui veut dire que effectivement, le philosophe, pour moi, ne doit pas s'appuyer sur des informations, mais uniquement sur des fictions. Ce qui veut dire aussi que dans un discours de philosophe, tout peut être faux. Que je pourrais, dans ce livre, parler de machines qui n'existent pas comme si elles existaient, ou je pourrais entièrement me tromper sur le fonctionnement des machines dont je parle. Ça n'aurait aucune importance du moment que ces textes ont une cohérence en tant que fiction, du moment qu'un lecteur y adhère, comme à un roman de science-fiction. Ça, pour moi, ça ne changerait rien. Alors, ce n'est pas dire... Maintenant, ce n'est pas dire que la philosophie, c'est le règne de la fake news, pour le dire de façon un peu brutale, parce que justement, en même temps, le philosophe tel que je le conçois ne prétend pas donner des informations, hein, et que les fake news, c'est lorsqu'on prétend donner des informations et qu'on donne de fausses informations. Pour moi, le philosophe doit reconnaître qu'il est dans la fiction et que c'est ce qui lui donne cette position à part par rapport, encore une fois, aux scientifiques, hein, qu'il s'agisse des sciences, comme on dit, dures, ou des sciences humaines. Ensuite, donc, sur cette dernière phrase, effectivement, toute une part de mon livre est liée à ce que j'appelle donc des machines d'introspection, hein, des différentes machines, des algorithmes, des applications, des dispositifs de neurosciences qui prétendent décrypter dans nos données, dans notre cerveau, ce que nous pensons. Ou ce que nous pensons avec un sens large de la pensée, nos intentions, nos humeurs, nos désirs. Et dans cette idée de décrypter la pensée de l'extérieur, et finalement, dans cette prétention que ces machines connaîtraient même mieux la pensée de l'utilisateur que l'utilisateur ne la connaît lui-même, pour moi, il y a une transformation complète de ce qu'est la pensée. Et qu'il suffit que... il n'y a même pas besoin que de telles machines fonctionnent. Il suffit que dans des fictions, nous puissions accepter de telles machines, que nous puissions donc adhérer à cette fiction pour que le sens même de la pensée se transforme. Alors, est-ce que je parle déjà de ces machines qui lisent notre pensée, ou peut-être tu me poses la question, ça fait une petite interruption.
Exactement, on en arrive au chapitre 1. Mais je trouvais que c'était important de poser vraiment ces bases méthodologiques. Enfin, vraiment, je considère, Pierre, que c'est ton apport philosophique. Il se trouve là. Peut-être qu'il y a d'autres philosophes qui ont pensé de cette manière-là, mais tu pousses le bouchon de plus en plus loin. Je pense vraiment à ton grand livre qui s'appelait « Lire le cerveau, neuroscience-fiction », c'était en 2012. Voilà, c'était déjà très très présent dans « Mon zombie et moi, la philosophie comme fiction ». Enfin, c'est quand même... ton apport philosophique, il est là, il est redondant de livre en livre. Tu le continues, tu appuies encore dessus, et là, il fonctionne aussi pour les voilà pour ces machines là. Et peu importe qu'elles soient inventées ou qu'elles existent déjà. Et ça, c'est vraiment puissant comme pensée. Donc, je voulais vraiment qu'on y insiste. Alors, abordons le syndrome du thermomètre. Ça permettra de prendre un exemple concret. Ce syndrome du thermomètre serait cette première grande transformation qu'opèrent en nous les machines et le numérique. Quel est ce symptôme? Parce qu'il est assez clair, en fait, à définir.
Oui, alors, ce que j'appelle le syndrome du thermomètre, hein, c'est l'idée de confier à une machine le soin de déterminer ce qui doit relever de mon expérience intérieure. Donc, par exemple, il y a des applications, on peut les télécharger sur son téléphone portable, hein, qui prétendent déterminer mon humeur en fonction des intonations de ma voix. Donc, je mets l'application sur mon téléphone, je la laisse tourner pendant mes conversations téléphoniques, et l'algorithme analyse mes intonations de voix pendant mes conversations téléphoniques, et à la fin de la journée, me dit quelle a été mon humeur avec un score. Donc, pourquoi utiliserais-je de telles applications? c'est avec l'idée que moi-même, je ne sais pas en fait comment je me sens et que l'algorithme va me dire mieux que moi-même comment je me sens. On ne ferait pas la même chose avec un humain. Je veux dire, si tu me vois, tu me dis « Ah, t'as l'air triste aujourd'hui », je te dis « Ben non, je suis un peu fatigué, mais non, je suis en pleine forme, ça va ». Tu peux croire que je mens, mais si tu acceptes que je suis de bonne foi, tu diras « Ben oui, non, il a l'air fatigué, mais il est de bonne humeur ». Et moi-même, je ne douterai pas que je suis de bonne humeur, je ne douterai pas que je suis de bonne humeur. Ou au moins, je ne prendrai pas ce que tu me dis de ce que tu penses de mon humeur comme plus vrai que ce que moi j'en pense. Or, c'est ce que je fais avec ces applications. C'est-à-dire, si j'utilise de telles applications, c'est parce que je pense qu'elles connaissent mieux mon expérience intérieure que la mienne. Il y a d'autres machines du même genre dans les neurosciences. Dans tous ces cas, et pour moi, le meilleur exemple, c'est une machine fictive qu'avait proposé Jean-Philippe Toussaint au musée du Louvre il y a une dizaine d'années. C'était une machine à lire les pensées. Il appelait ça une machine à lire les pensées, et ça devait être donc une machine. En fait, c'était un leurre, hein, mais une machine qui, en analysant le cerveau de l'utilisateur, devait permettre de montrer sur un écran les images qui lui passaient par la tête lorsqu'il lisait un roman. C'était un leurre, mais c'est très proche de certaines expériences dans les neurosciences où on essaye de saisir dans le cerveau de l'utilisateur ce qu'il voit d'un film, ses rêves, parfois les mots qu'il prononce dans sa tête. Et Jean-Philippe Toussaint disait à propos de sa machine, comme ça, les gens verront quelles images leur... J'ai oublié la phrase exacte, mais enfin, les gens verront à quoi ils pensent quand ils lisent un roman. Et c'est une phrase qui est très étrange, parce que les images qui me passent par la tête quand je lis un roman, je les vois dans ma tête, si je puis dire, par définition. Et là, justement, on croit, c'est une question vraiment de croyance, hein, de foi, la machine n'existe pas, et pourtant, tout le monde faisait la queue pour y passer, et il y avait un petit... cordon qui barrait l'entrée comme si elle était juste ce jour-là hors service, quelle malchance. Nous acceptons qu'une machine qui analyse notre cerveau pourrait voir mieux que nous ne le faisons nous-mêmes ce qui nous passe par la tête. Et donc c'est une sorte... je dirais, de dépossession, hein, de notre expérience intérieure. Je vais encore en donner un autre exemple, hein, pour en montrer aussi les dangers. Juste avant l'élection présidentielle donc de 2017, j'ai reçu un courrier électronique juste avant le deuxième tour où on me demandait... Le texte disait quelque chose comme « Vous ne savez pas pour qui vous voulez voter, faites le test proposé ». Il y avait un lien pour cliquer. Et au début, je me suis dit, donc c'était le deuxième tour Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. Au début, je me suis dit « c'est-à-dire on va me dire à la fin que de toute façon je veux voter pour un tel ». Mais pas du tout en fait, c'était une entreprise américaine qui voulait vraiment me faire un test et à l'issue de ce test me dire pour qui je voulais voter. Or, un sociologue par exemple peut me dire avec un certain pourcentage de réussite et d'erreur pour qui je vais voter. C'est-à-dire, il me demande mon âge, mon revenu, mon niveau d'éducation, un certain nombre de caractéristiques, et il calcule, disons, d'après un modèle, pour qui je vais voter avec un pourcentage d'erreur. Mais il ne prétend pas me dire pour qui je veux voter. Dans le fait de me dire pour qui je veux voter, c'est mon expérience intérieure que je suis censé ne pas connaître et que la machine va m'indiquer. Et pour moi, nous avons vraiment une foi dans la machine, dans ces machines algorithmiques ou algorithmes ou de neurosciences, et nous acceptons qu'elles puissent mieux connaître notre propre intériorité, nos propres, encore une fois, nos propres pensées, hein, intentions, humeurs, désirs, que nous ne le faisons nous-mêmes. Et c'est une transformation de ce qu'est la pensée.
Oui, pour conclure cette partie, je te cite, tu écris « Ces machines améliorent donc notre expérience. Elles sont susceptibles de nous rendre heureux si nous nous confions à leur bienveillance. » Il y a un second syndrome qui apparaît dans ton chapitre 2, qui serait celui de l'esprit plat. Une explication servirait à l'illustrer. Elle s'appellerait « Mood App ». Je te laisse la décrire et je précise tout de suite que c'est une invention fictionnelle de ta part, mais qu'elle est très réaliste.
Alors, et d'abord, je veux revenir sur cette phrase que tu citais, selon laquelle ces applications qui décryptent notre expérience intérieure nous rendraient heureux. Je veux être assez prudent là-dessus. C'est-à-dire que je ne veux pas tomber dans la technophobie. Je ne veux pas dire que c'est en soi un mal d'utiliser de telles applications. Je veux laisser ouverte la possibilité que ces applications, finalement, m'aident à, à gérer mon humeur. Je dis gérer mon humeur parce que c'est cette application dont je parlais tout à l'heure qui analyse mes intonations de voix pour décrypter mon humeur. L'algorithme a d'abord été mis en place par une entreprise américaine qui conseille des téléopérateurs. Ma box internet est en panne et j'appelle furieux la ligne téléphonique du fournisseur internet et je tombe sur un téléopérateur. Et ce que cette entreprise américaine propose, c'est un algorithme qui analyse la voix de l'utilisateur et celle du téléopérateur pour décrypter prétendument les émotions qui sont en jeu et aider le téléopérateur à satisfaire, faire en sorte qu'à la fin de l'entretien, l'utilisateur soit aussi content que possible. Donc, satisfaire l'utilisateur. Donc, il s'agit bien de gestion, de gérer l'humeur, mais c'est bien de ça qu'il s'agit. Mais alors, cet algorithme a été d'abord utilisé sur des patients, vraiment des patients qui sortaient de l'hôpital, des patients bipolaires. Et c'est un fait connu que les gens atteints comme ça, les personnes atteintes de bipolarité comme ça, ont énormément de mal à prévenir les crises, les hauts et les bas. Et eux-mêmes ne s'en rendent pas compte. Et cette application, elle a donc pour but de les prévenir qu'ils sont en phase maniaque ou au contraire qu'ils approchent d'une phase dépressive. Et en tant que philosophe, je ne veux d'abord pas dire que ce serait mal pour nous tous d'utiliser de telles applications. Je ne veux pas non plus dire qu'elles ne fonctionnent pas. Donc j'accepte finalement le discours de l'utilisateur, le discours du fabricant. Elles pourraient nous rendre heureux, peut-être. Peut-être que le fait que la machine me dise comment je me sens, me permettent aussi de voir objectivement que je dis n'importe quoi. Si j'ai passé la nuit au café et que je me couche tard, le lendemain je me sens de moins bonne humeur que si je me suis couché tôt et que j'ai fait mon jogging le matin, tout ce genre de trucs. Peut-être qu'en fait cette objectivation, cette extériorisation, peut-être qu'elle me permet de mieux gérer mes humeurs et que peut-être je suis heureux, je serai plus heureux. Donc, en tant que philosophe, je ne veux pas dire « ça ne marche pas ». Ça serait le travail d'un scientifique. Je ne veux pas dire non plus « c'est mal ». Tout ce que je veux dire, c'est que c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre d'attendre de son téléphone qui vous dise comment vous vous sentez, d'attendre de votre téléphone qui vous dise comment vous vous sentez. C'est tout ce que... qu'il y a une bizarrerie. Et pourquoi une bizarrerie? C'est parce qu'en fait, c'est une transformation de la pensée, hein, que nous ne sommes plus en fait le dépositaire de notre propre expérience. Celle-ci est finalement sur l'écran d'une machine. Donc ça, c'était sur le premier point de ta question. Est-ce que tu peux me rappeler en un mot le deuxième point ?
Le deuxième point, c'était sur le concept d'esprit plat que tu élabores. Et pour mieux nous l'expliquer, tu as inventé une application qui s'appellerait Mood App, qui serait fort utile pour cela. Enfin, pas pour avoir l'esprit plat, parce que c'est peut-être quelque chose qui peut être plutôt là une critique de formule, mais en tout cas pour avoir cette expérience de bienveillance de la machine.
Oui, alors cette Mood App, donc ce serait simplement hein, comme l'application météo, elle analyserait toutes les données de mon téléphone et elle me dirait sous forme d'une émoticône comment je me sens aujourd'hui, hein, d'une émoticône accompagnée d'un chiffre. Ce que je veux dire, c'est que pourquoi je parle d'esprit plat, hein, en quoi ces applications, elles transforment notre expérience. La première chose, c'est qu'elles la déplacent, hein, disons, de notre propre tête, avec des guillemets autour de tête, sur l'écran de mon téléphone. Mais la deuxième chose, c'est qu'elles correspondent à un double appauvrissement de notre expérience intérieure. Le premier appauvrissement, il tient à la pauvreté du vocabulaire utilisé pour décrire mon expérience. Et je prends plus que cette application d'humeur que j'invente, qui donc décrirait notre humeur par 5 ou 6 émoticônes comparables à celles qu'utilise l'application météorologique. Je prends comme exemple Cambridge Analytica, cette compagnie qui, s'appuyant sur les données Facebook, a mis en place avant l'élection américaine de 2017 un algorithme qui assignait à chaque utilisateur de Facebook un profil psychologique, enfin aux utilisateurs dont ils avaient les données, un profil psychologique pour l'envoi de messages ciblés. Donc ce profil psychologique était déterminé au sein de 6 termes, hein, c'est ce qu'ils appellent le modèle Ocean. Donc il y a ouverture, j'ai oublié quels sont les enfin 6 termes. Donc il y a en gros est-ce que on est anxieux, est-ce que on est optimiste, est-ce que on est anxieux, il y a optimiste, extraverti, bon, bref 6 termes. Selon ces 6 termes, la machine va nous envoyer un message publicitaire différent. En l'occurrence, c'était pour Trump. Hein, donc, si la machine voit que affirme que je suis d'un naturel inquiet, elle va m'envoyer un message sur les mesures de Trump sur la sécurité. Si elle croit que je suis optimiste, elle va envoyer un message sur le progrès technologique soutenu par Trump, peu importe. Mais ce qui m'intéresse, c'est la pauvreté du vocabulaire utilisé, c'est-à-dire mon humeur ou mon profil psychologique est décrit par un terme parmi 6. C'est exactement autant que ceux qu'utilise l'application météorologique. Hein, soleil, nuage, pluie, orage, neige, grêle, quelque chose comme ça, 6 termes. Et comme l'application météorologique, dans ces 6 termes, on va ajouter un score qui montrera un score donc, qui est comparable à la température. Hein, aujourd'hui, soleil, 29 degrés. On va dire inquiet, 5 sur 10. Donc, un score qui montre la prégnance de cette humeur. Et d'une certaine façon, si je tiens un journal intime, il va me falloir 5 pages par jour pour décrire comment je me sens. On peut dire Proust, pour décrire sa vie intérieure, il fait 6 volumes. Donc, il y a un premier appauvrissement par la pauvreté, hein, la réduction du vocabulaire utilisé pour décrire notre vie en première personne. Un deuxième appauvrissement qui fait ce que j'appelle l'esprit plat et qui est lié à la psychanalyse, c'est que c'est la différence entre ce que Freud appelle le sens latent et le sens de façade. Alors, c'est à propos de l'analyse des rêves. Pour Freud, donc dans un rêve, il y a un sens de façade. Hein. J'ai rêvé, par exemple, d'un monsieur barbu. Et puis, il y a un sens latent. C'est que ce monsieur barbu, en fait, était aussi mon père, qui n'a pas de barbe, et pour Freud, peut-être aussi le chef de la horde. C'est-à-dire que les figures des rêves, elles ont plusieurs sens. Elles ont ce sens de façade, ce sens apparent, et puis une multiplicité de sens latents qui viennent en plus. Et on peut dire la même chose de certain nombre de, disons, de contenus de pensée. Si finalement je suis anxieux, eh bien peut-être que d'une certaine façon, je prends plaisir à mon angoisse. Et ce plaisir, il est latent dans mon angoisse. Or, si on prend maintenant les machines à lire les rêves, dont il existe plusieurs tentatives dans les neurosciences, que vont-elles faire? Eh bien, elles vont justement identifier un rêve. Imaginons, comme en rêve les neuroscientifiques, une machine qui, la nuit, pendant mon sommeil, pourrait capter les rêves qui me passent par la tête. Eh bien, la machine dirait, voilà, elle montrerait une image, un monsieur barbu. Et puis peut-être même qu'avec un algorithme de reconnaissance faciale, elle pourrait me dire, ce monsieur barbu, c'est monsieur X. Et j'aurais rêvé de monsieur X. Et en déterminant de cette sorte nos contenus mentaux, disons, elle élimine tout le sens latent. Quand l'application me dit « je suis anxieux », elle dira « je suis anxieux » ou « je suis content ». Mais elle élimine ces contenus latents qui peuvent y avoir dans mon anxiété comme dans ma joie. Peut-être que ma joie, elle est aussi un peu anxieuse. Et donc, c'est... D'une certaine façon, c'est la réduction au sens de façade, l'élimination des sens latents, la réduction au sens de façade. Et l'esprit qui apparaît sur l'écran de mon téléphone, sur ma Mood App, il est à la fois plus pauvre, il s'est déplacé d'abord, il est plus pauvre et il est plat comme le sens de façade. Il a perdu cette profondeur.
Alors, quittons maintenant le monde des applications pour celui qui nous apparaît peut-être comme étant plus matériel, qui est les robots, puisqu'il y a toute la fin de ton ouvrage, nous parle du robot domestique. Et là, j'ai l'impression qu'à nouveau, tu exprimes une contre-intuition qu'on pourrait tous avoir sur l'usage des robots. C'est-à-dire que le robot domestique n'aurait pas qu'une fonction utile, qu'une fonction productive, s'occuper du foyer, s'occuper de la vieille grand-mère ou s'occuper de l'enfant, mais aurait aussi pour fonction la bienveillance et aurait aussi pour fonction de nous rendre heureux. Et tu insistes particulièrement sur cette fonction-là qui pourrait pour l'instant être que sous-jacente, mais qui serait peut-être à terme développée par la robotique, notamment pour les robots domestiques.
Oui, alors là, vraiment, j'analyse le discours des fabricants de robots, en particulier Aldebaran qui fabrique Nao et Pepper. Donc deux robots domestiques, deux robots compagnons qui sont destinés à errer dans nos foyers. Et en fait, ces robots... ils ne peuvent pas faire grand-chose. C'est-à-dire, ils ne peuvent certainement pas faire le ménage. La vaisselle, c'est dans les séries télévisées. Mais ils peuvent, même si peut-être qu'à terme, ça serait une tâche, au moins une tâche pour laquelle on essaye de les programmer, ils ne peuvent pas vraiment surveiller les enfants ou la grand-mère. Et du coup, les fabricants de robots, Aldebaran, mais aussi d'autres, insistent sur une chose, c'est la bienveillance du robot. Là, en anglais, c'est souvent le robot est décrit comme kindly, c'est-à-dire que le robot donnerait dans la maison une atmosphère de bienveillance. Et une des choses dont les concepteurs de Pepper sont très fiers, c'est qu'il est censé pouvoir lire les émotions de l'utilisateur. C'est encore ce dont on parlait tout à l'heure, et s'y adapter. Donc vous avez par exemple une publicité pour Pepper dans laquelle on voit une jeune femme qui rentre chez elle, elle a l'air horriblement triste et Pepper lève les yeux sur elle, la voit et va réagir à cette émotion qu'il perçoit. Il va en fait, sur l'écran qu'il porte sur sa poitrine, il va commencer par lui passer un morceau de musique et puis il va afficher un message avec une figure de jeune homme. On comprend que c'est le petit ami de la jeune femme et qui, qu'il est loin et il lui a écrit, Pepper lui montre et elle finit par l'embrasser. Donc, cette idée que le robot s'adapte à nos émotions pour nous rendre heureux. Et donc, d'une certaine façon, le robot va... Il faut dire aussi qu'une chose, par contre, que peuvent faire ces robots, c'est d'aspirer une multitude de données nous concernant. Hein, que le robot, ça par contre, il peut tout à fait le faire. Il nous voit en train de regarder la télévision à telle heure et en train de boire du soda de quelle marque ou une bière de quelle marque avec des radis bleus ou des chips parfum cheddar et oignon, et que donc, aspirant toutes ces données, connaissant donc la superficie de notre maison, notre adresse, etc., le robot est un aspirateur de données qui sait énormément de choses sur nous et permet donc l'envoi de messages extraordinairement dans un futur un peu dystopique, permettrait pour le moment, et là, sont suffisamment rares pour que et les utilisateurs les payent suffisamment cher pour être ne pas avoir ces inconvénients, mais on pourrait imaginer que le robot nous propose au moment où nous mangeons ces chips devant la télé, nous propose où nous mangeons ces radis devant la télé, nous propose des chips oignon cheddar qui nous feront très envie et nous proposera de les commander directement chez un livreur qui les amène dans les 15 minutes qui suivent. Donc le robot nous surveille et il nous surveillerait pour notre bien, pour nous rendre bien heureux. Voilà. Et donc ce terme hein, de bienveillance des machines, il est fondé sur un jeu de mots. Les machines nous bienveillent, c'est-à-dire qu'elles nous surveillent pour notre bien. Comme les applications d'humeur dont on parlait tout à l'heure, elle aussi récolte énormément de données sur nous. Elle nous surveille, mais elle nous surveille dans le but apparent de nous rendre heureux. Donc, elle nous bienveille. Et pour moi, cette ambivalence de la machine hein, est très forte dans la technologie contemporaine. C'est une surveillance pour notre bien. C'est donc une sorte de bienveillance en détachant le bien de la veillance.
Et tu en arrives alors à caractériser le fait que ces technologies contemporaines, elles ouvrent un sens nouveau. Ce sens nouveau, ça serait un sens ou une sensibilité, en tout cas, ça serait la sensibilité synaptique, S-Y-N-H-A-P-T-I-Q-E, donc synaptique. Et j'aimerais que tu nous parles de cette sensibilité synaptique parce que ça fait l'objet de ton apport, également de la conséquence de ces technologies contemporaines qu'on utiliserait.
Merci. Alors, oui, donc ce que j'appelle la surveillance ou la perception synaptique, c'est l'idée suivante. C'est que les technologies contemporaines, pour moi, modifient de deux façons essentielles notre perception. Lorsque nous percevons, lorsque nous regardons quelque chose à travers notre écran. D'abord, et c'est ce qui les mettrait du côté de la vue, c'est qu'elles rendent elles permettent toujours l'interruption de la réciprocité. C'est-à-dire si je suis en visioconférence ou si j'assiste à une conférence en visio, comme on dit, je peux mettre ma caméra et là on voit, ou je peux couper ma caméra et je continue à regarder sans qu'on me voit. Alors, dans la vie sans les technologies, la vue peut, dans une certaine mesure, la vue accepte cette interruption de la réciprocité. Par exemple, je peux regarder quelqu'un de dos, un petit peu. Ou je peux, comme dans la lettre et le néant de Sartre, je peux regarder l'occupant d'une chambre d'hôtel à travers le trou de la serrure. Mais ça ne marche pas très longtemps. Que si je suis dans une réunion avec différents collègues, je ne peux pas me cacher sous la table. Je suis là, je vois, on me voit. Alors que par contre, si je suis en visio, en principe, je peux toujours couper ma caméra. Pareil, nous parlons face à face, je ne peux pas me cacher. Je te vois, tu me vois. Si nous étions en visio, ce rapport pourrait être sans réciprocité. Pour le toucher, cette réciprocité, dans la vie sans ces nouvelles technologies, cette réciprocité est impossible et, à mon avis, elle a même été inimaginable. C'est-à-dire que quand nous nous serrons la main, je sens ta main, tu sens la mienne. Et toucher, c'est être touché. Et à mon avis, on pourrait dire que l'homme invisible, dans le registre de la vue, joue sur cette possible non-réciprocité de la vue. Je peux imaginer voir tout en étant invisible. Mais on a essayé d'imaginer des personnages qui seraient intangibles dans le même sens que l'homme invisible est invisible, c'est-à-dire qui pourraient toucher sans être même tangibles. Et disons qu'on n'a jamais vraiment réussi. Cette réciprocité du toucher, le fait que quand je touche, je suis touché, on n'arrivait pas à la défaire. On pouvait imaginer toucher, on pouvait imaginer ne pas être tangible, mais alors on ne pouvait plus non plus soi-même toucher. Il y aurait plusieurs spécifications, mais toujours est-il qu'il est clair qu'au moins que les nouvelles technologies ont rendu possible la possibilité de toucher sans être touché. Il y a toute une série de dispositifs qui permettent de toucher à distance des choses ou des gens et sans qu'on soit touché par eux. Que si je touche, par exemple, il y a des musées qui ont des dispositifs qui permettent, avec des gants, de toucher à distance des vases qui sont rangés sur des étagères. Quand je touche à distance le vase, je risque pas d'y laisser une empreinte de doigt, je risque pas de le casser, je risque pas non plus de m'écorcher sur ce vase. En fait, je touche le vase tout en étant un personnage intangible, qui peut toucher sans être lui-même touché. On peut dire aussi métaphoriquement que le conducteur d'un drone, le pilote d'un drone, il touche sa cible sans pouvoir être touché par lui. Donc, ces nouvelles technologies, en fait, et j'explique dans le livre un peu mieux, mais c'est vraiment l'idée d'une technologie de l'information, au sens de Wiener et Shannon, qui a rendu possible une totale interruption de la réciprocité de notre perception habituelle. C'est-à-dire qui rend possible le fait de pouvoir percevoir sans être soi-même perçu. C'est un premier point. Le deuxième point, et qui rapproche alors la perception technologique, la perception à travers ces interfaces technologiques du toucher, c'est que sur nos écrans, nous avons une multitude de perceptions locales plutôt qu'une vue d'ensemble. Qu'est-ce que je veux dire ? Typiquement, qu'est-ce que c'est qu'avoir une vue d'ensemble ? Nous sommes là dans le café de Beaubourg. Eh bien, du haut de cette mezzanine, nous voyons d'un seul coup d'œil l'ensemble du hall. Tous les gens qui passent, d'un seul coup d'œil. L'équipe de sécurité qui surveille sans doute à travers une multitude de caméras de surveillance ce hall, que voit-il ? Ils n'ont sans doute même pas cette vue globale du hall. Ils vont avoir sur leurs écrans une multitude de points clés. Ils vont avoir les portes d'entrée. Ils vont avoir le recoin près des toilettes, l'entrée des vestiaires, une multitude de points clés. C'est-à-dire, ce sont en fait des perceptions locales qui se relèvent de l'haptique, du toucher. Si je veux déterminer par le toucher ce qu'est un objet devant moi, par exemple, voilà, je touche cette bouteille d'eau et on me demande qu'est-ce que c'est que j'ai les yeux fermés, on me demande qu'est-ce que c'est que cet objet. Je vais toucher le bouchon en plastique, et puis le fond de la bouteille, et puis l'étiquette, et je vais dire « Ah, c'est une bouteille ». Donc j'ai plusieurs perceptions locales que je rapporte à un même objet. Et donc c'est ce qui se passe dans les nouvelles technologies. Le gardien du centre Beaubourg, il a devant son écran une multitude de perceptions locales et il va, le cas échéant, les synchroniser autour d'un même objet. Donc, par exemple, imaginons, il y a quelqu'un il veut identifier une certaine personne qui remarque près des toilettes. Il va revenir en arrière sur la caméra du hall pour le voir passer, et puis revenir encore un peu en arrière pour le voir entrer ou examiner les différentes entrées pour voir par où il est passé. Il va essayer d'identifier cette personne avec une multitude d'impressions locales. Ça n'est pas du tout cette vue d'ensemble qu'on a, cette impression d'ensemble qu'on a grâce à la vue. Donc, c'est en fait une multitude d'impressions haptiques qui sont toujours resynchronisées pour pouvoir être rapportées à un même objet. Donc, c'est pour ça que je parle de synaptique, dans le sens des impressions haptiques qui sont resynchronisées. Et pour moi, justement, la surveillance contemporaine, elle est synaptique par opposition à ce que Bentham et puis Foucault décrivaient comme le panoptique. C'est-à-dire, dans le panoptique, cette prison que décrit Bentham et dont Foucault fait le modèle des sociétés disciplinaires, c'est un bâtiment circulaire, les cellules sont dans un bâtiment circulaire, le gardien est juché sur une tour au milieu de ce bâtiment circulaire et d'un seul coup d'œil, il voit tous les prisonniers dans leurs cellules. C'est une vue d'ensemble, il voit tout. Et alors c'est des choses sur lesquelles on a travaillé notamment Antoinette Rouvroy, mais dans la surveillance contemporaine, il ne s'agit pas de voir tout, C'est-à-dire, il ne s'agit pas de voir tout, il s'agit juste d'avoir un certain nombre de paramètres clés. Par exemple, pour le parking ou le Beaubourg, on ne va pas essayer de voir tout ce qui se passe. On va juste fixer un certain nombre de points clés dans des impressions locales. Et en fait, il ne s'agit pas non plus de voir. C'est-à-dire, ce qui va intéresser une surveillance générale, ce n'est pas seulement des images, ce sont une série de paramètres. Ce n'est pas seulement en fait, ce que j'ai fait tout au long de la journée. C'est comme si on me suivait par une caméra absolument à chaque instant de ma vie. Non, c'est ce que j'ai fait à tel ou tel moment, quel site j'ai pu aller regarder, et puis d'autres données, mon âge, mon revenu, etc. Donc c'est une série de paramètres clés qui ne relèvent pas de la vision, en fait, qui relèvent beaucoup plus d'un toucher, d'une localité discontinue. Et cette surveillance, donc, voilà, le modèle de notre surveillance a changé. On est passé d'un panoptique à un synaptique. Je pense que c'est quelle est la différence, enfin voilà, je viens de parler de cette différence entre le panoptique et le synaptique, mais un point qui est à mon avis intéressant dans le synaptique, c'est que dans cette multitude d'impressions locales, on accepte des zones d'ombre, à savoir dans le panoptique tout doit être vu, les prisonniers sont visibles à chaque instant de leur vie. Dans cette idée de synaptique, on accepte qu'il y ait des zones d'ombre qu'on n'a pas besoin de surveiller. Et je suis sûr qu'à Beaubourg, il y a une multitude d'endroits qui ne sont pas filmés. Ça n'intéresse pas, en fait. Du moment qu'on a pu voir la porte d'entrée tel et tel point, peu importe ce qui se passe là. Par exemple, dans les lotissements américains qui ont ces caméras Ring, il y a effectivement une multitude de caméras. Chaque Porsche, imaginons, a sa caméra, mais toutes les allées entre les maisons sont des zones aveugles. Ça ne nous intéresse pas. D'une certaine façon, on pourrait dire aussi, lorsque, par exemple, Cambridge Analytica essaye de déterminer mon profil psychologique, elle le fait à partir d'un nombre finalement très fini de données, assez nombreuses, mais en même temps qui ne concerne pas littéralement toute ma vie. Il y a des zones d'ombre et on considère finalement que ces zones d'ombre, elles n'ont aucune importance. Elles ne comptent pas. Il y a rien qui se passe. Et je pense que c'est c'est une différence importante entre le synaptique et le panoptique, l'acceptation de ces zones d'ombre. Dans le même registre, un film qui m'a beaucoup frappé cet été, c'est le film de Jean-Marc Chapouly, La mer du milieu. C'est un film, donc Jean-Marc Chapouly, un artiste français, et il fait un film en reprenant des images des caméras de surveillance tout autour de la Méditerranée. Des caméras, souvent la municipalité qui filme sa plage et qui diffuse sur Internet, un hôtel qui filme sa piscine, qui diffuse sur Internet. Et ça, tout autour de la Méditerranée. Et le film parle énormément des migrants qui traversent la Méditerranée et que l'on ne voit jamais, que l'on ne voit jamais sur les images. D'une certaine façon, je trouve que c'est une bonne illustration du synaptique, c'est-à-dire des images qui surveillent une certaine zone, disons un lotissement, en laissant des zones d'ombre à l'intérieur de ce lotissement et en considérant que ce qui se passe à l'extérieur n'importe pas. Que finalement, on ne va pas filmer le milieu de la Méditerranée. Les migrants, ben, s'ils arrivent dans le champ des caméras, là, ils seront repérés. Mais on ignore, on fait comme si on pouvait les ignorer au milieu de la mer. Ce qui est en dehors du champ des caméras ne compte pas, n'importe pas. C'est une zone d'ombre, du moment que, et ce qui nous intéresse, ce sont les paramètres clés. Mais ce qui arrive hors champ, ce n'est pas que ça n'est pas qu'il n'y a pas de hors champ, ça n'est pas que ce synapticon est fermé. Chacun peut prendre un bateau et se lancer dans la Méditerranée. On n'est pas en prison, mais ce qui est hors du champ des caméras ne compte pas. Ne compte pas. Et on peut, pour moi, ce serait aussi ça serait une explication hein, de notre. On en parlait tout à l'heure avant, mais ça serait une explication de notre aveuglement au changement climatique. Le fait que ce qui est hors champ ne compte pas. On est habitué à faire comme si ça n'existait pas. Ce serait aussi une explication de notre extraordinaire narcissisme numérique, à savoir pourquoi est-ce que nous prenons en selfie, nous nous mettons sur TikTok, sur Instagram à longueur de temps et nous nourrissons les banques d'images qui servent à nous surveiller et nous le faisons gratuitement. Finalement, je veux dire, quand on met une vidéo sur TikTok, on travaille pour TikTok, on donne du contenu à TikTok. Et en plus, on donne des éléments pour être surveillé soi-même. Et tout ça gratuitement. Pourquoi ? Eh bien, si justement on est dans cette idée que ce qui est hors champ ne compte pas, ce qui est hors champ n'importe pas, eh bien, on veut toujours, en fait, être dans le champ de la caméra. Et voilà. Et donc, bon, en tout cas, tu me parlais du synaptique. Ce qui fait le synaptique, hein, c'est cette idée d'une surveillance et d'une perception par une multitude d'impressions locales qui viennent remplacer la vue globale qui marquait les sociétés disciplinaires.
J'aimerais que nous concluions sur ce terme de bienveillance. Dans une note de bas de page de ta conclusion, tu écris que dans le texte anglais, Butler, donc Samuel Butler, celui que tu as utilisé pour ton film Bienvenue à Erewhon, dans le texte anglais, Butler utilise le mot « kindly » qui est traduit ici par « bienveillance ». Les machines de Butler sont « kindly » comme le robot Pepper sur la page web de SoftBank. Ce terme-là de bienveillance, est-ce que tu l'utilises à partir de Samuel Butler ?
Non, en fait, j'utilise vraiment à partir. Donc, Aldébaran a été racheté dont je parlais tout à l'heure a été racheté par SoftBank. Mais le terme de bienveillance, kindly, en fait, je le prends initialement sur la page de Aldébaran ou SoftBank. C'est vraiment c'est vraiment très surprenant comme on y insiste. Et on y insiste, en fait, parce que le robot ne sait pas faire grand-chose d'autre. Mais pour moi, c'est au moins une fiction technologique très convaincante, cette idée que les machines, finalement, nous seraient bienveillantes. Et que c'est cette idée qui me semble justifier l'introduction d'une multitude de machines dans nos vies, ces robots compagnons, donc il y en a différentes sortes, hein, il y en a Pepper, mais des robots plus petits, peut-être ces boîtes comme Alexa ou la boîte de Google, une multitude de machines qui exercent une surveillance sur nous, mais qui le ferait pour notre propre bien. Et c'est en retour qu'effectivement, je me suis aperçu que Butler utilisait déjà ce terme dans Erevon, hein, Butler, dans cette idée que les machines ont une tendance à l'extension. Butler reconnaît en même temps que pour s'étendre, en fait, les machines ont besoin des humains. À savoir, typiquement, cette idée d'une extension des machines, finalement, de mon téléphone et de moi, qui utilise qui ? On peut dire, oui, mon téléphone, c'est une prothèse, je l'utilise pour augmenter mes pouvoirs. Voilà, je peux parler même si je crie très fort en montant à quelques dizaines de mètres, mais avec mon téléphone, je peux me faire entendre à l'autre bout de la planète. C'est une augmentation, c'est un organe supplémentaire, une augmentation de mes pouvoirs. Mais on peut dire en même temps, sans les humains, les téléphones ne se développeraient pas. À savoir, imaginons des téléphones tombés sur Terre, sans les humains, je le dis mal. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut aussi considérer que les téléphones utilisent les humains pour se développer. À savoir, ils se font beaux, ils se font attrayants. J'ai cet appareil devant moi, j'ai envie de cliquer sur le bouton, de regarder l'écran. Au bout d'un certain temps, je vais l'avoir utilisé, je vais l'avoir cassé. Donc, je vais aller en acheter un autre. Sans doute, les machines ne sont pas encore entièrement capables de se fabriquer elles-mêmes. Donc, il y a certains humains qui sont entrés dans la fabrication de ce téléphone pour extraire les minéraux rares nécessaires à son fonctionnement, pour la production elle-même. Et puis, au moment où je vais le choisir, où je vais choisir un nouveau téléphone, je vais choisir le modèle le plus joli, le plus performant. Et donc, je vais d'une certaine façon servir exactement comme, avec un peu des guillemets, la nature dans l'évolution des espèces qui à chaque génération, sélectionne les membres de l'espèce les plus aptes à la survie. De la même façon, je vais choisir les téléphones les plus performants et les autres vont tomber en désuétude, ce qui fait que, grâce aux humains, apparaît une nouvelle génération de téléphones portables qui est plus belle, plus performante que la précédente. Donc on peut dire ou bien j'utilise mon téléphone, mais on peut dire aussi finalement les téléphones nous utilisent pour se développer, être plus performants, plus jolis, etc. Évidemment, on ne peut pas tout à fait croire au fait que les téléphones nous utilisent. On ne peut pas tout à fait adhérer, c'est peut-être une expérience de fiction, mais une hypothèse de fiction. Mais est-ce qu'elle ne nous permet pas de voir quelque chose d'autre sur notre rapport à sur la technologie et notre rapport à la technologie? Et ce que je veux dire, et donc dans cette idée d'une tendance à l'extension des machines, c'est l'idée que les machines utilisent les humains pour se développer. Et le danger, c'est que, pour Butler, les machines vont donc être bienveillantes avec les humains. Elles ne vont pas, comme dans les films dystopiques à la Matrix, etc., essayer de détruire les humains ou faire la guerre avec les humains. Au contraire, elles ont besoin des humains, donc elles vont être bienveillantes avec les humains. Mais elles les entraînent, les humains, dans leur propre problématique, en quelque sorte, dans leur propre extension. Et au moment du changement climatique, les machines ont beau être bienveillantes avec les humains, elles semblent nous entraîner au bord de l'abîme. Et donc, je ne veux pas du tout défendre l'idée d'une reconquête de l'autonomie humaine. Sans doute que nous avons toujours été dans une sorte de symbiose avec d'autres entités. Mais cette symbiose avec les machines, elle semble nous entraîner à notre perte, ou à une perte.
Merci beaucoup, Pierre Cassonogas. Merci.